aujourd'hui, on nous a effectivement demandé de partager un petit peu notre mode de fonctionnement. Alors, en toute humilité, nous, on estime être encore au tout début quelque part de cette belle aventure. Et on apprend encore tous les jours, on découvre tous les jours. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous partager un petit peu notre expérience. Mais voilà, prenez ce que vous avez envie de prendre, laissez le reste, parce qu'on ne pense pas détenir la vérité. C'est juste un partage d'expérience. Donc, je vais commencer par nous présenter. Alors, tout d'abord, JP, mon compagnon, sans qui j'ai quand même envie de le dire, je ne serais pas là aujourd'hui parce que j'ai un fichu caractère et j'aurais déjà arrêté plusieurs fois, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, qui a fait des études d'éducation physique, qui est prof d'éducation physique et qui évolue quelque part dans le domaine du bien-être et du fitness depuis une bonne dizaine d'années en tant qu'indépendant. Il est issu du cyclisme. Et puis moi, je suis Caroline, donc kiné spécialisée en pré-postnatal, en urogynéco. J'ai fait 3 ans de nutri, je suis nutrithérapeute et moi j'ai sauté à la perche à un niveau international. Alors on a 4 enfants, quelque part 3 enfants qui sont plutôt les miens parce qu'ils sont d'un premier mariage. Hugo, mon aîné, qui a 12 ans maintenant, des jumeaux qui ont 8 ans et puis quelque part notre petite dernière, Mila, qui a tout juste 3 ans. Alors quand on s'est rencontré, ah oui, excusez-moi, voilà, vous avez la famille ici. Quand on s'est rencontrés, JP et moi, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, on est des challengers, on aime les défis. On était tous les deux passionnés par le sport depuis toujours, plus particulièrement à ce moment-là par les sports d'endurance. JP venait tout juste de terminer son premier Ironman en un top 10 en 9h12 pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Et moi, je revenais tout juste des championnats du monde de demi-Ironman pour la deuxième fois. Et on s'est dit qu'on pourrait préparer un défi, un challenge ensemble, que ça pourrait être chouette de quelque part partager ça ensemble. Et on a longuement hésité entre le marathon des sables et un Ironman qui serait qualificatif pour Hawaï, pour les championnats du monde de full Ironman. Alors, le marathon des sables, c'est certain, on le fera un jour, mais à cette époque-là, on a plutôt choisi de participer à Zurich, enfin, un Ironman qui était qualificatif pour Hawaï et c'était Zurich. Voilà, on a été ensemble sous les 42 degrés, on s'est qualifiés tous les deux, ce qui est quand même un exploit parce que c'est vrai que c'est pas évident de se qualifier et en plus de se qualifier tous les deux en même temps pour Hawaï. Et donc on est partis ensemble à Hawaï et autant j'aime les défis, c'était un véritable défi Hawaï parce que après 90 km à vélo, plus moyen pour moi d'avaler quoi que ce soit. Le marathon, c'était un véritable calvaire. J'ai vomi 8 fois sur le marathon, mais je ne pouvais pas abandonner. Je voulais absolument passer cette ligne d'arrivée. Je voulais absolument pouvoir ramener quelque part cette médaille à mes enfants, ramener le t-shirt de l'Ironman à mes enfants. Je voulais m'entendre dire You are an Ironman sur cette ligne d'arrivée. Donc voilà, c'était un véritable défi, mais je suis arrivée au bout. Et en rentrant à la maison, je dis à JP, ça va pas, je me sens pas bien, je suis fatiguée. Je continuais à. Ouais, je lui dis, moi, je ne ferai plus jamais ce genre de défi parce que je pense vraiment que ce n'est pas bon pour le corps. Je pense vraiment que c'est juste too much. Et quelques semaines après, j'ai compris pourquoi. En fait, j'étais enceinte de notre petite dernière, quelque part, Mila, vous voyez là en bas, qui a fait quelque part son premier Ironman dans mon ventre il y a 3 ans. Et voilà pourquoi je vous parle de ça parce que quelque part, quand j'ai accouché, quand Mila est née, on était tous les deux indépendants, full time. Alors, des indépendants, voilà, vous savez, on travaille comme des fous. Pour vous donner un petit peu une idée d'une journée chez nous, souvent je me levais le matin, je faisais un ou deux patients avant que les enfants se réveillent. Ensuite, les enfants se réveillaient, on leur donnait à manger, on les déposait à l'école. JP partait à l'école, moi je continuais à travailler dans mon cabinet. On allait récupérer les enfants qui grandissaient et sont très sportifs, font beaucoup d'activités, donc on les dépose à droite à gauche pour leurs activités respectives. Et puis le soir, on reprenait dans le cabinet, JP allait donner un cours de spinning. Bref, on avait des journées quelque part à ne plus en finir. Et on gagnait bien notre vie, mais malgré tout, il nous manquait vraiment, vraiment du temps. Du temps, quelque part, pour nos passions, mais surtout du temps, j'ai envie de dire, pour élever nos enfants, pour déposer nos enfants à l'école, pour pouvoir les chercher, les aider à faire leurs devoirs, les déposer, les accompagner. Et tout ça pour vous dire que peut-être qu'on n'était peut-être pas le genre de couple qu'on aurait invité, qu'on aurait mis sur une liste de noms, parce qu'on se serait dit, ceux-là, ils n'ont pas le temps, de toute façon. Okay? Donc, on gagnait bien notre vie, mais il nous manquait du temps. Et on s'est dit, OK, si on veut récupérer du temps, si on veut quelque part, oui, un jour profiter et vivre de notre vie, enfin, vraiment profiter de nos enfants, il faudrait peut-être qu'on crée un business. Donc, on est parti, aux États-Unis pendant mon congé de maternité. Alors, un congé de maternité, quand on est indépendant, c'est pas très très long, mais on est parti 15 jours, 3 semaines aux États-Unis en se disant on va trouver un concept, juste un chouette concept qu'on va ramener en Belgique, qu'on va développer en Belgique. Mais voilà, qui dit un nouveau concept, qui dit un nouveau business, dit souvent ben, il faut arrêter son premier job pour démarrer full-time dans cette nouvelle entreprise, dans ce nouveau business, et surtout aussi investir surtout souvent des grosses sommes d'argent. Alors, on n'était pas prêt à le faire à ce moment-là. On n'avait pas envie, quelque part, de prendre ce risque. Et c'était le bon moment, probablement. Voilà, je pense que je pense pas que c'est par hasard, parce que je ne crois pas tout à fait au hasard. Marc Bertrand et Karine, le ton d'eux, ont contacté quelque part JP via les réseaux sociaux. Ils m'ont envoyé un mail. Ils étaient à la recherche de gens en Belgique qui avaient envie de nouvelles aventures, de développer un nouveau business dans le domaine de l'équilibre alimentaire. Alors moi, je venais tout juste de terminer ma formation en nutrition. Il nous a présenté un petit peu, comme vous avez probablement tous eu, une présentation online. Donc nous, on n'avait jamais vu Marc, on connaissait ni Karine ni Marc. On l'avait juste entendu et reçu un mail quelque part. Il nous a présenté la présentation avec Jérôme Bonaldi. Alors Jérôme Bonaldi, peut-être que vous n'avez pas tous eu cette même présentation. Pour les nouveaux, la présentation a changé. Mais Jérôme Bonaldi en Belgique, bah, ça ne nous parle pas, quoi. Alors, développer un business en réseau avec de la poudre, moi, je n'avais pas compris, quoi. Hein. Je venais de terminer ces 3 ans de nutrition où je préparais à manger frais tous les jours. On cuisinait, voilà, on faisait germer nos graines. Je n'avais pas bien compris. Sauf que, voilà, on était vraiment en recherche de quelque chose. On s'est posé pas mal de questions et on s'est quelque part dit qu'il ne tente rien à rien. Moi, quelque part, on préférait tenter l'aventure et se dire que c'était quelque chose qui n'était pas fait pour nous, que de se dire, voilà, de regretter quelque part de ne pas l'avoir fait. Donc, ça a coïncidé plus ou moins avec le congrès, hein, parce qu'on s'est inscrit, je pense, fin du mois de septembre. On a fait une première commande directement. JP a testé les produits. Moi, c'était hors de question que je teste les produits. J'allaitais Mila en plus, donc je ne voulais pas prendre de risque. Je voulais d'abord avoir des réponses à mes questions. Donc, on est parti au congrès. Alors, le congrès, j'ai un peu du mal à vous transmettre les sentiments qu'on avait. On était un petit peu mitigés parce qu'on est arrivé là-bas. Déjà, Marc nous avait appelé 3-4 fois qu'on était dans la voiture. Marc, en fait, il voulait s'assurer qu'on trouve, qu'on sache par où rentrer. Il voulait nous donner les places, etc. etc. Nous on n'était pas, on n'avait pas bien compris. On avait l'impression qu'il nous harcelait un petit peu. Donc, on est arrivé sur place. Alors, un peu choqué parce qu'à l'entrée, il y avait une centaine d'opportunity managers avec un shaker à la main, une clope dans l'autre. On s'est demandé ce que c'était. On rentre dans le Zénith, il y avait 4000 personnes, tous habillés en costard, un peu comme des pingouins. Nous, le dress code en Belgique est un petit peu différent, qui frappait dans les mains, qui criait. Moi, je pensais aller à un congrès comme j'avais été à des congrès médicaux où tout le monde est assis, tout le monde est calme et on écoute le speaker. Donc, voilà, ça ne correspondait pas tout à fait à ce à quoi je m'attendais. Mais quelque part, on ne s'est pas arrêté à ça parce que ce n'était pas pour ça qu'on venait. On venait parce qu'on voulait avoir des réponses à des questions. On voulait voir que derrière ce Skype, quelque part, de Marc Bertrand, il y avait de réelles personnes, il y avait une réelle entreprise. Et on a eu ces réponses à ces questions. On a pu rencontrer le comité scientifique, on a pu rencontrer Christelle Fagon, je me souviens de Francky Batelier. On a rencontré Marc et Karine pour la première fois, qui étaient vraiment juste au top, qui ont essayé de nous rassurer, nous mettre à l'aise. On a mangé avec eux. Et quelque part, voilà, je ne sais pas si ça a été un déclic, certainement. En tous les cas, voilà, on a démarré à la suite de ça. Donc, si vous n'avez pas pris vos places de congrès, j'ai envie de dire, prenez-les parce que vous allez avoir les réponses à vos questions et c'est peut-être ça qui va vous aider à avancer et surtout emmener votre équipe parce que c'est quelque chose que, voilà, comme j'explique, je ne peux pas l'expliquer, en fait. Il faut le vivre pour le comprendre. Alors, voilà, on a eu ces réponses à ces questions et en rentrant, on a également lu « L'entreprise du 21e siècle ». Et c'est peut-être ça le premier gros déclic qu'on a eu, c'est qu'on s'est rendu compte que quelque part, en tant qu'indépendant, petit indépendant, on vendait notre temps quelque part contre de l'argent. Et que si on voulait commencer à vivre notre vie, et il fallait investir notre temps pour essayer d'en récupérer tôt ou tard. Et que donc, comme Robert Kiyosaki nous l'explique, on devait quelque part déménager de cadran et déménager du cadran gauche vers le cadran droit. Alors ce ne fut pas facile et je vais vous laisser JP qui va vous expliquer comment on a fait.
Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien assis. Caro, comme vous voyez, c'est une compétitrice, donc elle fonce et je pense que effectivement, elle a bien recadré un petit peu le pourquoi, le comment et comment on s'est intéressé à ce projet. Effectivement, moi, je vais partager un petit peu avec vous nos débuts après avoir pris la décision quelque part de démarrer, de prendre place dans ce projet, de prendre possession de ce produit, de s'imprégner un petit peu de tout ça. Et clairement, on ne peut pas démarrer si on n'a pas d'abord vécu un tout petit peu le produit. Ça peut être des expériences plus courtes ou plus longues. Certains ont des résultats très rapidement, d'autres, ça prend plus de temps. Mais je pense que de toute façon, ça commence par là. Et juste avant le congrès, hein, pour revenir un petit peu en arrière, on a commandé online avec Marc un kit de démarrage. Et ce qui est très curieux, c'est qu'aujourd'hui, on a une communication où on va vraiment tenir le fait que les gens doivent goûter le produit, l'avoir en bouche après une présentation ou après un R2. Et j'avoue que moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai encore du mal à faire des présentations online parce que les gens ne goûtent pas le produit et que ça me gêne. Et pourtant, nous, on a démarré suite à un webinaire avec Marc et on a commandé online sans jamais avoir goûté le produit avant, finalement. Même l'aspect cuisinable, on n'avait jamais vu ni rien, c'était très curieux. Et donc, on a acheté quelques produits, on a expérimenté tout ça. Et il s'avère que moi, j'avais encore un Ironman à Barcelone juste après avoir découvert tout ça et je n'avais pas envie de tester les produits avant l'Ironman parce que j'avais peur que ça ne me corresponde pas et que ça puisse influencer peut-être mon feeling personnel et de ne pas avoir de bons résultats sur ma course. Donc, j'ai voulu tester après en mode récup et clairement, le discours était très clair à l'époque. Les produits, c'était un tiers des apports journaliers recommandés par OMS, je pense, où les proportions étaient un peu différentes. Mais quand bien même, c'était de la substitution de repas. Donc, ce que j'ai fait, c'est… moi, j'ai fait simple. J'ai mangé matin, midi, 4 heures et soir, Energy Get. Et quasiment que Energy Get, parfois cuisiné, parfois pas cuisiné, avec des légumes, avec un peu d'agréments à côté. Mais je dirais que 85% de mon alimentation était composée d'Energy Get parce que je m'étais dit, si je veux un jour en faire un business, il faut que je l'ai transpiré le produit, il faut que je puisse savoir exactement comment est-ce qu'il peut me convenir aujourd'hui à titre personnel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après un Ironman, en règle générale, moi, je mettais plus ou moins 8-9 semaines pour récupérer parfaitement. Et quand je parle de récupération, c'est de pouvoir recourir à des allures normales, c'est de pouvoir être en forme le matin quand je me réveille, de ne pas m'endormir à chaque canapé que je croise sur mon chemin. C'est vraiment d'être d'aplomb et en super forme. Et en général, je mettais 8-9 semaines en prenant 4-5 kilos dans la vue parce que moi, j'ai tendance à prendre quelques kilos facilement. Et ce qui est logique parce que quand on récupère d'un Ironman, on a tellement de déficits au niveau micronutritionnel et de plein de choses à régler ensuite. Le corps cherche ça et donc mange probablement proportionnellement trop. Et si quelqu'un stocke, moi, je stocke facilement, donc je prenais quelques kilos. Donc, ce que j'ai fait, j'ai testé Energy Day de matin, midi, 4 heures et soir. Et en fait, très rigolo, très curieux. En 2-3 semaines, j'avais parfaitement récupéré, mais exactement de la même façon qu'au bout de 8-9 semaines, sauf que je n'avais pas pris un gramme. Et je recourais à des allures normales, je ne m'endormissais pas à chaque canapé que je prenais. J'étais vraiment bien et Caro ne voulait pas me croire. Elle me disait que c'était placebo, blablabla. Et donc, je lui dis, écoute, tu n'as qu'à essayer. Et puis, tu vois bien, quand on va courir ensemble, je recours à des allures correctes. Et là, pour moi, si c'était placebo, j'aurais quand même du mal à courir à des bonnes allures. Et donc, l'expérience produit de Caro était tout autre dans le sens où, comme elle l'a dit, elle a fait la nutri, donc elle est très sensible au choix des matières premières, à la manière dont elle va cuisiner dans sa cuisine. Elle fonctionne, moi, je n'ai jamais compris, mais elle fonctionne avec des graines, des machins, des trucs dans tous les sens. Donc, elle s'est dit, mais moi, je mange déjà extrêmement bien. Est-ce que vraiment ce produit va changer la donne? Donc, ce qu'elle a fait comme expérience, elle a gardé son alimentation habituelle avec une bonne méthodologie, une bonne approche sur l'alimentaire finalement. Et elle a renforcé son alimentation avec Energy Diet à raison de 2 fois par jour, en l'intégrant, en le rajoutant dans son petit-déj, et puis à 16 heures. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle avait accouché 3-4 mois avant et qu'elle avait donc plein de petits réglages à faire au niveau de sa prise de sang. Et donc, elle n'a pas pris les compléments alimentaires que son médecin lui avait ordonné finalement. Et elle s'est dit, si Energy Diet couvre autant d'apports, moi, je prends ça 2 fois par jour et on verra ce qui se passe. Effectivement, quelques temps après, son feeling est je suis moins fatigué, j'ai moins de coups de barre, je grignote moins. Et puis, elle a refait une analyse de sang finalement et tout était réglé sauf la vitamine D. Parce que la vitamine D, clairement, en Belgique, on en manque cruellement. Donc, il en faut bien plus que ce que peut proposer Energy Diet. Mais par rapport à tous les autres axes qui étaient liés à sa prise de sang, tout était vraiment à jour et réglé. Et c'est là qu'elle s'est dit, tiens, il y a quand même quelque chose dans ce produit. ça a l'air de fonctionner. Effectivement, en termes d'énergie, de feeling, je suis bien mieux. Et puis, on a aussi été… on a amené aussi ce produit à des sources externes. Caro, elle a été voir l'un ou l'autre médecin, on a été voir des athlètes de haut niveau, on a fait un petit peu notre enquête externe pour avoir des avis à gauche et à droite. On s'est dit, tiens, tout semble globalement positif, donc on peut peut-être mettre des choses en route. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, ben moi, je suis convaincu, je suis méga convaincu. Caro commençait aussi à aller de plus en plus. On s'est dit, ok, très bien, on va pouvoir passer à l'action, on va pouvoir démarrer, informer que tout ça existe, partager autour de nous qu'une nouvelle solution alimentaire débarquait en Belgique et qu'un nouveau business débarquait en Belgique. Et clairement, le démarrage de cette activité ne se fait pas toujours au jour de l'inscription, quoi. Il y a toujours un temps d'inscription. Puis après, à un moment donné, il y a des choses qui se mettent en place et le passage à l'action est quelque part synonyme de « je démarre, je mets des choses en route ». Et bien, il y en a qui se cassent la gueule avant, il y en a qui sont en route et qui souffrent déjà avant même d'avoir démarré. Il y en a qui tremblent avant même d'avoir imaginé le fait de démarrer. Voilà. Nous, on est passé à travers tout ça et on a dit, on va y aller de manière très simple. On va quelque part mettre des choses en route. Et tout ça demandait quand même un temps de réflexion et d'organisation et d'engagement parce que moi, je m'étais dit, étant donné qu'on cherchait vraiment un projet d'entreprise béton, on était prêt à même partir sur une entreprise traditionnelle, à investir de l'argent. Le problème qu'on avait par rapport à ça, c'était le timing. Et clairement, ce que j'avais vu à travers ce projet, c'était que à temps choisi, on va pouvoir mettre en place une activité qui va nous générer des chiffres d'affaires, des revenus qui sont des réels revenus d'entreprise. Comme Caro l'a dit, on a changé de cadran. Nos revenus qui découlent de ce projet ne découlent pas de notre temps, mais du réseau et du circuit de distribution qu'on a mis en place sur ces derniers mois et ces dernières années. Et clairement, quand on a démarré, on s'est dit, tiens, quel est le temps qu'on a par semaine et qu'est-ce qu'on peut faire? Et on s'est dit, on a 5, 10, 12 heures par semaine qu'on peut mettre à profit pour le fait de développer ce projet et on peut mettre 3, 4 actions par mois, mensuellement. Et moi, je suis parti d'un principe, si je le fais, je le fais, mais jusqu'à temps que ça fonctionne. J'ai fait un webinaire il y a quelques mois, effectivement, j'avais approfondi le sujet, tout ça, donc je vais balayer ça très vite aujourd'hui, mais on est parti dans un schéma où on va mettre des dates, on va mettre des actions, on va respecter les plages horaires qu'on avait établies ensemble. Quoi qu'il arrive, semaine après semaine, mois après mois, que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, on va respecter nos engagements par rapport à notre choix de timing et d'action à mettre en route mensuellement. Et donc, on a mis 3-4 dates par mois et on mettait 5 à 10 heures par semaine. Et puis, je pense que toute personne qui démarre ce projet, la première chose à faire, c'est de se mettre en action. Et ça passe par la présentation du projet, ça passe par le fait de faire une présentation de produit avec des RDE. Ça passe par le fait de mettre des ateliers en place pour faire comprendre quand même l'aspect culinaire du produit. Et clairement, c'est ce qu'on a fait. On n'a fait que ça, PO-RBE atelier cuisine, PO-RBE atelier cuisine. Pour nous, dans la foulée, quand il y avait des gens qui démarraient le projet, ils venaient avec nous sur nos actions. Mais on n'a fait que ça, sans se poser de questions, sans chercher à savoir quoi. On a juste fait ces actions de base finalement pour informer autour de nous. Et je pense que moi, il y avait quelque chose qui me terrifiait à l'idée de mettre en place ces actions et ces réunions et ces rendez-vous. C'était que les gens assimilent ce qu'on fait à des trucs foireux, à des arnaques pyramidales, à des choses où effectivement, souvent, on passe la soirée et puis on sort de là, on se dit « tu m'as bien eu, tu m'as bien fait perdre mon temps, franchement, no way quoi ». Et ça, c'était vraiment ma peur, c'était de me dire « je ne veux pas que les gens sortent de chez moi en se disant « tu m'as bien fait perdre mon temps, tu m'as bien eu, JP, merci, salut ». Ça, c'était le truc qui me… ça m'horrifiait à l'idée. Et donc, on a été dans un état d'esprit tout à fait différent où on s'est dit, on va juste faire, on va juste informer pour informer sans chercher le moindre résultat, sans chercher le fait de convaincre qui que ce soit sur un projet ou un produit. Et le seul objectif qu'on avait, c'était que les gens ils partent de chez nous en se disant, tiens, on a passé une excellente réunion. Et donc, le seul objectif, c'était que les gens ressortent de chez nous avec un sourire et de se dire, c'est intéressant ce que vous faites, les produits sont intéressants, c'est intriguant, il y a quelque chose là, tout ça. Et donc, on ne mettait pas du tout de pression ni de pushing sur qui que ce soit. Et à chaque fois, il était minuit parce que ça nous prenait 3 plombes au début de faire des actions. On se regarde, on se disait, on n'a rien vendu, des clopinettes, 2-3 boîtes par-ci, par-là. Il n'y a personne qui voit vraiment d'intérêt. On n'a pas vraiment de rendez-vous de suivi. On était un peu là. Mais on se disait, mais c'est pas grave, les gens, ils étaient contents, ils sont repartis en forme. On recommence demain, on recommence la semaine prochaine et ainsi de suite. Et on verra ce qui se passera. Donc, on a vraiment été dans cet état d'esprit-là, juste faire pour informer, pour que les gens ressortent en disant, tiens, il y a quelque chose avec tout ça. On était vraiment parti là-dessus au début. Puis effectivement, malgré tout, tout ça donne des résultats. Ça donne des résultats d'abord sur nous. le fait qu'on va améliorer notre manière de présenter un produit, de présenter un projet. On va, voilà, déjà, le résultat, il est déjà sur nous. Ça, c'est la première chose. Et puis, quelque part, ben oui, il y avait des résultats parce qu'aujourd'hui, ben, tout le monde en parle. Hein, tout le monde cherche des solutions, des alternatives alimentaires. Tout le monde cherche, ben, quand même, peut-être de la diversification d'activités professionnelles. Et donc, on a eu des retours. Hein. Sur le moment même, on n'avait pas vraiment de chiffres. On vendait quasiment pas de produits ni rien. Mais on a beaucoup de gens qui nous sont revenus derrière en nous disant, ah, tiens, ça m'avait intéressé, ce que vous avez présenté le jour, est-ce qu'on pourrait en reparler? Et de là a découlé très vite une très, très belle clientèle. Mais vraiment, beaucoup, beaucoup de clients qui ont découlé tout ça. Et puis, à côté de ça, par rapport à toutes les présentations, projets qu'on faisait, il y a énormément de gens, contrairement à peut-être beaucoup d'entre nous, d'autres managers, il y a énormément de gens qui se sont inscrits dans le projet. Et je pense qu'on a fait beaucoup d'erreurs par rapport à ça. C'est-à-dire que ben, nous, étant donné qu'on est issus du milieu du bien-être, du sport, nous, on a vu un produit, on a vu une opportunité produit. On a vu le fait qu'on pouvait amener une réelle solution, un truc génial sur un produit à travers un produit. On était tellement dans le produit qu'on invitait tout le monde sur cette notion de, on a découvert un super business avec des super produits et on parlait de produit, produit, produit. Et donc, les gens, ils étaient effectivement très intrigués, intéressés et ils nous faisaient très vite confiance parce que ben, on a un petit parcours, on a une image de sportif, de bien-être qui font que les gens sont peut-être plus facilement en confiance par rapport à des solutions d'équilibre alimentaire qu'on peut proposer avec ces produits-là. Et donc, ben, les gens, quelque part, démarraient le projet, un, sur notre enthousiasme qui était vraiment très fort, je pense, et deux, sur un mauvais démarrage dans le sens où ils démarraient parce qu'ils étaient impressionnés du produit, c'était chouette, mais ils ne démarraient pas sur un réel pourquoi créer leur propre entreprise. Et donc, clairement, hein, je ne blague pas, on avait presque des files devant la porte de gens qui voulaient démarrer notre projet. Sous le ton de l'humour, je vous le dis, mais clairement, on inscrivait tout le monde qui venait voir. Vous pouvez demander à Marc. Marc, il faisait les PO en Skype, il faisait les suivis en Skype avec nos gens. Et je pense qu'on inscrivait tout le monde, quoi. Au bout de quelques mois, on avait 15-20 largeurs qui étaient déjà mis en route. Et là, on s'est dit, waouh, c'est quand même, ça a l'air facile, toute cette histoire, quoi. Finalement, si tout le monde suit comme ça, ça va le faire très vite. Mais bon, on a fait plein d'erreurs. On n'invitait pas bien, en tout cas, pas sur le bon thème. On était trop enthousiaste, on n'allait pas chercher le pourquoi des gens, on ne les mettait pas dans des conditions qui leur permettaient à eux de réussir, on les mettait plutôt dans des conditions qui allaient nous permettre à nous de les inscrire facilement. Et donc, ce n'était pas forcément l'idéal. Et donc, on s'est dit, bah, easy game, on a fait star le deuxième mois, top, bah, facile, hein, on va faire tuteur diamant dans les 3, 4, 5 prochains mois, vu qu'on a déjà plein de monde qui nous suit, il suffit de faire pareil. Donc, clairement, on s'est dit, c'est dans la poche, ça n'a rien de compliqué tout ça. Et puis après, ben, la réalité du terrain nous a rattrapés. Nos erreurs nous ont rattrapés dans le sens où ben, on avait plein de gens avec nous, mais personne ne faisait rien. Ils étaient tout juste à peine pas autoconsommateurs, pour dire. Et donc, clairement, on a dû se remettre en question sur beaucoup de points, sur beaucoup de choses. Ça n'a pas été simple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, fatalement, mensuellement, on a des gens qui s'inscrivaient, mais on avait des gens qui abandonnaient ou qui ne démarraient jamais. Et là, du coup, on a dû être dans cette notion, ben là, on va trouver des remplaçants. Et donc, mensuellement, on s'est dit, bah, star, c'est un truc qu'on ne peut plus lâcher. Donc, tous les mois, on doit faire star. Et le seul moyen qu'on avait trouvé de faire star, c'était d'inscrire encore plein de gens. Donc, on inscrivait des largeurs, plein de gens, parce qu'il fallait bien remplacer tous ceux qui partaient, on ne sait pas où, et qui étaient dans le bus des gens qui ne faisaient rien. Hein, il fallait remplir le bus des gens qui allaient peut-être un peu faire. Et on s'est dit, en parallèle de ça, bah, tiens, ce serait peut-être bien qu'on essaie de les coacher, de les guider, d'amener des éléments. Et bon, on leur donnait des livres, on leur donnait des audios, on leur donnait des outils, on leur donnait des fiches à lire, on leur disait, ben voilà, vas-y, fais maintenant. Hein, tu lis tout ça, tu étudies tout ça, tu voilà, achètes des outils de cuisine, tu cuisines, fais, hein, tu prends le micro et tu y vas. Et puis, je pense qu'à un moment donné, trop d'infos, tu l'info. Et on n'avait pas encore cette capacité de pouvoir analyser correctement les personnes qu'on avait en face de nous, être à l'écoute de leurs besoins. Et du coup, on donnait tout de suite et ce n'était pas correct. Et les gens étaient inondés, trop d'infos, tu l'info. On n'arrivait pas à piloter des gens et à amener des gens dans notre sillage finalement et dans notre dynamique. Donc, ça a été vraiment une période très, très longue où on faisait star par star, tous les mois star. Et je sais que parmi vous, il y en a plein qui sont dans ce schéma-là. Et je vous comprends, il n'y a pas de problème. Mais tôt ou tard, il faut continuer. Il y a des choses qui vont se débloquer. Et en parallèle de ça, ben Marc et Karim, ils venaient quasiment tous les mois chez nous à la maison pour faire des actions, pour rencontrer du monde. Et ça n'a pas été simple de mettre malgré tout du lien. On n'arrivait pas à les mettre en relation avec nos groupes, peut-être parce que nous, on limitait le terrain aussi, peut-être parce que ben, on se sentait très différent de plein de coutumes et de plein de choses qui découle du réseau français. Et peut-être que nous, on bloquait même le fait que nos partenaires, nos équipes, nos nouveaux managers soient en lien avec notre sponsor, finalement, avec Marc, Karine, c'était déjà les premiers en ligne de touche. Et ça n'a pas été simple à ce niveau-là. Et puis, on n'avait pas de séminaire, on n'avait pas de réunion mensuelle. Donc, on n'avait pas de source externe qui pouvait peut-être donner un peu d'oxygène à nos équipes. Et donc, les gens se référaient essentiellement à nous, à Caro et JP. Et en fait, alors oui, on est des sportifs. Alors oui, on aime le défi. Alors oui, on a une vie un peu de dingue ces dernières années. Mais ça n'a pas fait forcément notre pub parce que les gens, qu'est-ce qu'ils voyaient à travers nous? C'était qu'on était un peu des bourreaux de travail, quoi, finalement. On faisait tout en même temps, on faisait tout pour tout le monde. On était des grands malades. Et je ne pense pas que ça faisait notre pub. Je ne pense pas que les gens avaient envie de nous ressembler. Et donc, ça a été vraiment une période longue et pas simple sur nous par rapport au fait qu'on n'arrivait pas à mettre des gens dans la danse, à mettre des gens en route. Et c'était vraiment très, très, très compliqué. Et pour vous dire, en termes de largeur, nous, on n'a rien à cacher. Je pense qu'en 2 ans, on a mis plus de 50 largeurs dans nos équipes. Donc, la règle de 1/3, 1/3, 1/3, pour nous, elle ne fonctionne pas du tout. Le 1/3 vont rien faire. 1/3, un coup oui, un coup non, et 1/3 vont y aller. Nous, on est loin, loin, loin de ça. Mais c'est parce qu'on n'était pas du tout dans la bonne méthode dès le début et que donc, à ce moment-là, y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup d'erreurs. Et fatalement, on doit rattraper tout ça en mettant du nombre. Et puis, j'ai envie de dire, la suite, ça a été qu'en parallèle d'être à fond dans l'action, c'est de pouvoir à un moment donné se dire, tiens, faut que je me développe, faut que j'apprenne de tout ça, faut que je travaille sur moi. Et moi, ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est j'ai harcelé Marco, hein, il est juste là, Marco. Je l'ai harcelé, je l'ai appelé 20 fois par jour, 10 fois par jour, je ne sais pas, je l'appelais tout le temps, même à minuit, Caro, elle m'engueulait parce que je l'appelais à minuit, bon voilà. Lui, il m'avait dit, tant que tu as des questions, tu m'appelles. Et ce que j'ai fait, c'est que en mode éponge, j'ai épuisé tout ce qu'il y avait dans le cerveau de Marco. Alors Marco, je m'excuse, il n'y a plus rien dedans. Tiens, c'est tout chez moi maintenant. Et ça m'a permis de très, très vite intégrer des fondamentaux, des bases, une méthodologie et une compréhension tout en gardant quelque part ma valeur ajoutée personnelle et mon authenticité. Ben voilà, je n'y arriverai pas, soit. Moi, j'ai besoin de savoir et de comprendre tout de suite. Donc, j'ai lu tous les bouquins que Marco me recommandait. J'ai vraiment fait tout ce que Marco me disait qu'il fallait faire. J'ai écouté tous les MP3. On a même été à des événements spéciaux qui n'avaient rien à voir avec le réseau à Paris sur le marketing de réseau. Donc, j'ai voulu vraiment tout connaître du modèle économique, tout connaître sur ce fonctionnement. Et puis, en parallèle de ça, pas mal de développement personnel sur la notion d'attitude, la notion de communication. Et tout ça a fait en sorte que fatalement, on évolue personnellement, on augmente en termes de confiance en soi, d'attitude, et nos mots changent. La manière dont on va s'exprimer, la manière dont on va amener les choses auprès des gens va changer. Et c'est ça qui va peut-être inspirer un peu plus auprès des gens. Et c'est ça qui a fait que petit à petit, y a des personnes qui se sont dit, tiens, ils ont l'air de savoir où ils vont, ces deux-là. Ils ont l'air d'être sereins et en même temps confiants et déterminés. Et clairement, je pense que ça nous a permis d'avoir 2-3 personnes dans nos équipes qui avaient envie de collaborer avec nous et de nous permettre d'aller bosser avec eux chez eux, dans leur salon, auprès de leur liste de noms, auprès de leurs contacts. Et clairement, ça nous a permis, à un moment donné, après 15 mois, malgré tout, 15 mois star, et puis ça nous a permis de faire un star 2, le 15e mois de notre activité, grosso modo. Et là, c'était parce que on avait des associés qui nous ont laissé un petit peu venir bosser dans leur intimité de vie finalement. On a pu regarder un peu leur liste de noms, on a pu faire des choses dans leur salon. Et donc, on a pu les aider à mettre en place un chiffre d'affaires et donc à construire avec eux une qualification de star pour eux. Et j'ai envie de dire, on était encore trop dans l'aspect, depuis une dizaine de mois, on fait du star sur star, donc on a compris comment il fallait faire. Et donc, on s'est trouvé dans un schéma, on a voulu trop vite tout faire pour tout le monde, on est devenu des tourneurs d'assiettes, c'est-à-dire que dans toutes nos équipes, on était partout, présent tout le temps, sur toutes les actions. Voilà, ils faisaient des choses, bien sûr, ils préparaient, ils collaboraient, ils bossaient. Il y en a plein qui m'écoutent, donc clairement, non, vous étiez dans l'action. Mais on était extrêmement présents partout et tout le temps. Et je ne pense pas que ça nous a rendu service et je ne pense pas que ça a rendu service à nos équipes non plus parce que du coup, il y a eu des chiffres d'affaires qui ont été réalisés trop rapidement, trop brusquement. Et en chemin, on a perdu des gens. Pour la petite anecdote, quand on a fait au mois de mars 2016, je pense, on a fait Star 2. Et clairement, on a une personne qui était star et qui a, on a inondé, je pense, sa vie personnelle, professionnelle. Et je pense que ça l'a pas fait trop dans son couple. Ça a pété un peu des durites. Et pour vous donner l'anecdote, son mari, il recevait les boîtes à la maison par le coursier. Le mec, il ouvrait les boîtes et il les vidait dans toute la maison parce qu'il ne voulait pas que sa compagne continue le projet tellement ça collait pas pour plein de raisons. Donc, clairement, voilà, on a pété un star. C'est un peu de notre faute, c'est un peu de la faute de la situation de ménage, mais voilà, il y en a un qui a disparu dans la nature. C'est dommage. Ensuite, clairement, ça n'a pas tenu parce que fatalement, si on est trop présent dans nos groupes et qu'on fait tout pour tout le monde, à un moment donné, ça ne tient pas parce que nous, on ne va pas pouvoir tenir ça longtemps non plus. Et donc, on est retombé, star 1 le mois d'après, je pense, avec notre cher Marc Kenom qui nous écoute peut-être, hein, qui lui a mené sa barque assez bien. Et puis, quelque part, on est retombé star 5000, puis star 3000, puis star 5000, voilà. Il y avait un peu de volume, mais on a continué notre bonhomme de chemin en remettant des largeurs encore et encore. Donc, tout en bossant dans nos groupes, on continuait à titre perso de mettre des nouvelles largeurs en sachant qu'on avait déjà une bonne quantité de largeur, mais ça ne se réveillait pas. Donc, on était vraiment en permanence occupé quand même, pour nous, à mettre du monde dans nos réseaux. Et je pense que c'est souvent là où on peut parfois se laisser avoir au jeu. Et je me souviens qu'il y a eu un ou deux mois ou trois mois comme ça où d'affilée, on ne mettait personne dans nos groupes et on se dit « Mais attends, il n'y a plus personne qui rentre. Ça ne va pas, il faut qu'on retrouve des gens, il faut qu'on se dise « Allez, on remet deux largeurs par mois de plus. » On était toujours dans cette dynamique-là. Ce qui a fait que un peu plus tard, on a ouvert un star diamant. C'était au 21e mois notre activité. Aussi parce que on avait de la largeur, il y avait quand même des choses qui se mettaient en place. On a eu la chance d'avoir quelques réunions leadership avec Nico, dont Michel Labazeur qui nous avait parlé de la notion de profondeur. Donc, on s'est dit, OK, profondeur, bam, on va faire de la profondeur. Et on a été comme des gros chasseurs dans nos groupes pour inscrire du monde dans nos groupes. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu, par la force des choses, quelque part, passer par un mois de star diamant. Mais encore une fois, on était vraiment beaucoup trop occupés à faire tout. Et on a, sur ce star diamant, on a perdu un deuxième star en chemin. Elle, c'était un peu différent. Hein. Elle ne s'est pas fait taper sur la tronche par son mari. Elle a plutôt trouvé un mec et l'amour a fait qu'elle a perdu un peu de vue du projet. Et comme on était trop présent dans son groupe et qu'elle n'avait pas pris en main son affaire, clairement, ça s'est complètement estompé. Et aujourd'hui, on a un deuxième star qui n'est plus avec nous aujourd'hui, en tout cas sur un peu de conso perso, mais plus dans l'action. C'est bien dommage. Et comme nous, dès le début de ce projet, de cette activité, la seule vision que j'avais vue dans le projet, dans le plan de com, c'était la notion de tuteur. Moi, je n'avais vu que le plan de com à travers le tuteur. C'est faut trouver 5 personnes qui ont envie de se déchaîner dans ce projet. C'était la seule chose que j'avais en tête. Donc, les passages star 2, star 1, star diamant, ça n'a jamais été des réels objectifs pour nous. En toute humilité, je vous dis ça, mais clairement, ça ne m'excitait pas d'être star diamant ou star diamant confirmé parce que quand je faisais le calcul financier et quand je voyais la structure, ça n'allait pas nous rapporter grand-chose et ça n'allait pas nous aider des masses dans notre situation professionnelle parce qu'aujourd'hui, on a malheureusement ou heureusement, on a une situation qui fait que si on rajoute 1 000 euros plus par mois à nos revenus, ça ne va pas nous aider des masses. Donc, on est vraiment dans un schéma bien plus challenging que ça finalement. Donc, on a toujours eu cette notion de tuteur. Donc, ce star diamant, tout ça pour vous dire que ce star diamant, on ne l'a pas maintenu parce que de un, on n'a pas cherché réellement à le maintenir non plus. Parce qu'on était dans cette dynamique de on n'a pas encore la largeur, on n'a pas encore des groupes, on n'a pas encore 5-6 personnes qui ont envie de faire des réelles choses. Donc, on a laissé ça de manière simple. Et finalement, on a fait des gros stars parce que fatalement, à un moment donné, il y a quand même du volume qui se met vu qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui rentrent dans l'équipe. On fait des stars 8000, des stars 8000, stars 10000, stars 9000. Et puis, au bout du 26e mois, on s'est regardé, on s'est dit waouh, star 12000, 4-5 largeurs à 2000 PV, il y a quelque chose à faire avec ça. Ça ressemble à une structure qui peut s'approcher du tuteur. On va peut-être un peu se remettre en question, on va peut-être voir un peu tout ça de près. Et là-dessus, quelque part, je vais laisser la main à Caro pour qu'elle puisse approfondir la stratégie, l'énergie et un petit peu ce qu'on a parcouru sur ce chemin du tutorat finalement et de cette confirmation. Et donc voilà, hein, j'espère que je n'ai pas été trop répétitif dans ce que je dis, c'est parfois un peu mon erreur. Et donc, voilà, Caro va passer à la suite.
Merci, Sylvain. Je vais parler du commencement, en fait, de notre tuteur. Quelque part, tout ça, ça a commencé quelque part le 13 mars. Alors, on est revenu du week-end de lignée. On avait 550 km à faire et il était 11h30 du soir. Moi, j'avais une boule dans le ventre. Je ne sais pas bien expliquer ce que j'avais, mais j'avais été un peu bouleversée par certains speeches, dont le speech, particulièrement le speech de Brigitte Martini, Et je dis à JP, on va pas rentrer, on va aller dans notre QG. On a un endroit où on a l'habitude d'aller, qu'on a besoin de discuter, un resto. Et donc, on a été manger, il était 11h30 du soir. Et je dis à JP, lui, il avait déjà dû trouver que j'avais été chiante pendant tout le trajet parce que je râlais un peu, je sais pas, je me sentais pas très bien. Et je lui dis, je pense qu'il faut qu'on prenne une décision parce que ça avance pas, quoi. Alors, c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est parce qu'en effet, nous, on n'a pas démarré cette activité pour un complément de revenu. Nous on voyait vraiment beaucoup plus grand avec ce projet, on voit plus grand avec ce projet. Et j'avais l'impression de stagner, même si je me rendais bien compte que les choses évoluaient. On était parti d'un star finalement tout au début qu'on avait du mal à boucler, à un star 12 000 PV. Mais financièrement, les choses n'évoluaient pas. Et j'ai envie de dire, aux yeux d'Enel, les choses en Belgique n'évoluaient pas non plus parce qu'on était toujours que star. J'avais appelé Michel une ou deux fois qui m'avait dit oui, quand vous serez tuteur. Et donc, je dis à JP, ben voilà, à toi de décider, mais moi, soit je prends 2 mois, je mets l'activité pendant 2 mois entre parenthèses parce que voilà, j'ai laissé mon cabinet, je faisais tout un petit peu à moitié. J'avais l'impression de m'occuper à moitié des enfants, de m'occuper à moitié de mon cabinet, de m'occuper à moitié de mes formations, etc. Et je dis, soit je mets… quoi ça ?
Non.
Je parle trop vite. Oui, je parle trop vite, excusez-moi. Soit je mets un petit peu l'activité entre parenthèses, soit on fait tuteur. Et on fait tuteur et on ouvre le tuteur ce mois-ci, quoi. Le 31 mars, il faut l'ouvrir parce que je veux fermer le tuteur le 31 juillet pour pouvoir partir avec les enfants en vacances. Donc voilà, on a beaucoup discuté, on a pris cette décision ensemble parce que je pense que d'abord il faut vraiment être vraiment serein au sein de son couple. Puis la deuxième chose, c'était vraiment de prendre la décision avec les enfants parce que moi ça me tenait fort à cœur. Les enfants, ils vivent, c'est une aventure qu'on vit en famille quelque part. Nos enfants, ils ont chacun leur cahier de rêve, ils ont leur liste de noms, ils ont les pins. Enfin, je veux dire, ils sont fans aussi. Et on leur a posé la question, on leur a demandé s'ils étaient prêts quelque part à ce qu'on bosse beaucoup ici pendant 5 mois et que ils soient peut-être gardés un peu plus souvent par une babysitter, qu'on puisse partir un peu moins souvent. Qu'on soit focalisé sur en plus de notre premier boulot quelque part sur l'activité. Et voilà, eux ils avaient l'air plutôt enthousiastes. Mon fils avait même dû faire une rédaction au mois de mai, mon fils de 8 ans, et il avait dû écrire ses rêves et il avait écrit qu'un de ses plus grands rêves c'était que maman et JP fassent tuteur. Donc je pense qu'ils sont vraiment dans l'activité avec nous et ça nous fait vraiment plaisir. Et puis forcément il y avait l'équipe, on a sondé un petit peu l'équipe. Voilà, parce que si on est ici, j'ai envie de le dire, vraiment, c'est grâce à vous. Sans vous, on n'y serait pas. Et merci de nous avoir fait confiance. Et vraiment, voilà, dès que vous voulez, on vous aide pour faire la même chose. Ça, sachez-le. Mais donc, on a voulu un peu sonder dans l'équipe aussi, qui était prêt à nous suivre et qui avait envie de mettre le paquet pour ouvrir ce tuteur, mais pour le fermer aussi. Donc, j'ai envie de dire, tout a démarré par une décision. Donc, ce que je vais vous raconter maintenant, ce n'est pas une pilule miracle. C'est juste un petit peu un partage de notre expérience. Ça a été forcément des actions. Okay, des actions. Donc, PO, RBE, R1, R2, atelier culinaire, PO, RBE, R1, R2, atelier culinaire, etc. Du stick-cola, ça c'est sûr, parce que c'était des longues journées, des courtes nuits. Pour vous donner un petit peu une idée, en effet, on se levait le matin, on déposait les enfants, entre deux patients parfois, ou entre deux clients pour JP, on avait une PO ou un R0. Moi, je me souviens encore d'avoir préparé des dégustations à 2h du matin pour le lendemain matin pouvoir repartir à 7h. Donc voilà, je ne vais pas vous faire peur, mais c'est vrai qu'on a enchaîné les actions les unes après les autres. Malgré tout, moi, j'avais besoin d'une carotte, j'avais besoin d'étapes. C'est-à-dire que je savais vers où j'allais. Je n'ai jamais douté qu'on allait fermer ce tuteur. Ça, j'ai jamais eu aucun doute. Par contre, on a vraiment vu ça mois après mois. C'est vrai qu'on bossait à fond jusqu'au 31, minuit. Et puis, souvent, le lendemain, les quelques jours qui suivaient, on s'octroyait un week-end par-ci, par-là, quelque chose d'activité, etc. Un peu comme, moi, j'ai souvent comparé ça à deux choses. D'abord, ma grossesse. J'ai une grossesse très, très, très difficile pour mes jumeaux, où j'ai dû rester couchée, vraiment couchée à l'hôpital pendant 4 mois, où je n'ai pas pu mettre le pied par terre. Et en fait, à 18 semaines, donc c'est vraiment le début de la grossesse, le gynéco m'a dit, Caro, là, c'est fini, tu vas perdre des bébés, tu vas coucher là maintenant, ton col est tout à fait ouvert. Et je lui ai dit non, c'est pas possible, je les ai attendus, là, je peux pas, c'est pas possible. Je lui ai dit, je vais me coucher et j'accoucherai pas avant 34 semaines. Et je me souviens de 34 semaines, j'étais à 18 semaines, ça faisait 16 semaines, resté couché 4 mois, la tête en bas, les pieds en l'air quelque part, parce que j'étais en déclive, sans mettre le pied par terre, en devant appeler l'infirmière pour aller à la toilette, pour lui demander quelque chose dans mon armoire. Ça, c'était vraiment compliqué, mais je me suis mis des étapes. Je me suis dit, OK, 18 semaines, il faut que j'arrive à 24. 24, là, les bébés deviennent viables. Ensuite, une fois 24, je me suis dit, OK, il faut que j'arrive à 28 parce que là, on sort quelque part de cette grosse prématurité. De 28, il fallait que j'arrive à 32. Mais je n'ai jamais quelque part douté de l'issue. Je savais que j'allais accoucher avant, à 34 et pas avant. Et tout s'est bien terminé. Je pourrais comparer ça aussi à un Ironman parce que c'est un peu la même chose. Quand on démarre un Ironman, ben, on sait qu'on est parti pour 3800 mètres de natation, pour 180 km à vélo et puis un marathon pour terminer. Si on pense à tout ça, OK, on a tout le temps cette ligne d'arrivée en point de mire quelque part, mais par contre, quand je suis au départ de la natation, je me focalise sur la natation, quoi. J'essaye de pas me faire écraser et me faire passer par-dessus par tout le monde. J'essaye de travailler ma technique et seulement quand je vais sortir de l'eau, je vais commencer à penser au vélo, quoi. Et sur le vélo, en effet, je vais essayer de quelque part donner tout ce que je peux sans brûler toutes les cartouches en sachant qu'après le vélo, bah, quelque part, c'est déjà gagné. Souvent, après le vélo, c'est un peu comme après les trois premiers mois du tutorat. On s'est dit, OK, on a trois mois derrière nous, il en reste plus que deux. Il faut foncer, quoi. Et le marathon, bah, on sait que ça va faire mal et on y va au finish. Mais je vous rassure, le tutorat, ça part aussi mal qu'un Ironman. Donc, no stress. Et donc, après ces actions, bah, forcément, quelque part, il y a eu la formation parce que la formation, c'est important. Alors, la formation… pour moi, c'est d'abord le travail avec la lignée. Et je suis désolée si, en effet, ma lignée, je ne l'appelle pas souvent. Ils doivent certainement dire que je n'ai pas besoin d'eux. Ou... Ce n'est pas du tout ça. Je pense que simplement, bah, comme notre lignée, elle est pas tout près. Ce n'est pas toujours évident pour moi. Alors, la différence entre JP et moi, c'est que moi, je n'ai pas de temps mort dans ma journée, dans le sens où j'ai toujours des patients en face de moi et je peux difficilement téléphoner pendant un quart d'heure à ma lignée. JP a plus de temps dans sa voiture, parfois ses élèves, je ne sais pas, ils jouent au foot et il a le temps de prendre le téléphone et de téléphoner. Moi, c'est vraiment, vraiment compliqué. Mais donc, voilà, j'essaierai de m'améliorer sur ce point-là. Mais heureusement, grâce à JP, on a pu, en effet, comme il a expliqué, éponger avoir beaucoup d'infos de la lignée. Ensuite, ça a été les séminaires. Alors, les séminaires, on a une magnifique salle de séminaire. Hein, je ne sais pas si vous êtes un jour de passage, un dimanche, et que vous avez envie de venir assister à nos séminaires. On a une salle de séminaire dans un hôtel 5 étoiles au plein milieu des bois. Ça vaut vraiment, vraiment la peine de faire le détour. Comme JP l'a expliqué, ils sont en place maintenant depuis janvier 2016. Alors, pour moi, les séminaires, c'est incontournable. Et donc, on a peut-être encore un souci, qui est un axe de progression aussi vraiment, c'est la promotion de ces séminaires, parce que pour moi, quelque part, c'est inconcevable de développer ce projet sans se former. Donc, quelque part, alors excusez-moi si j'en heurte certains et je vise personne, mais quelque part, kiné, je ne suis pas du tout professionnelle de cette activité, donc je ne pourrais pas concevoir développer cette activité sans me former. Et donc, j'ai vraiment, vraiment du mal, enfin, je pense que c'est la même chose pour JP, on a vraiment, vraiment du mal à comprendre les gens qui, quelque part, ne se forment pas, okay, qui sont inscrits, qui ont un tas de veulent faire un tas de choses avec ce projet, mais qui, finalement, ne se donnent pas l'occasion parce qu'ils ne se forment pas. Donc, c'est vrai que nos séminaires ne sont pas encore remplis, les salles de séminaires ne sont pas remplies comme on voudrait les remplir, mais on va essayer de progresser sur cet axe-là. Alors, les webinaires, ben… je ne devrais peut-être pas le dire, c'est vrai que j'essaye tant bien que mal de les suivre en live, mais c'est très très compliqué parce qu'en général, le mardi midi, à moins de prendre congé comme aujourd'hui, quelque part, je suis en train de travailler. Mais donc, je vais toujours les écouter en replay. Je mets des écouteurs dans mes oreilles et je vais courir ou le matin, avant que les enfants se lèvent, parce que si j'ai quand même une grande chance, c'est que je n'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Donc, je suis souvent la première levée dans cette maison et c'est souvent à ce moment-là que je réécoute les replays. Et puis, en effet, ces CD audio de la IPME, les lectures, les audios, les audiobooks. Ça, c'est vraiment quelque part ma frustration, c'est quelque part de ne pas pouvoir me former voilà, comme je le voudrais. C'est vrai que j'envie un peu JP qui passe en effet une heure le matin et une heure le soir dans sa voiture, tout seul, à pouvoir écouter en boucle ses audios. J'en ai écouté un peu plus pendant les vacances. Mais moi, je travaille de chez moi, ce qui est un luxe. Souvent, quand je suis dans la voiture, j'ai les enfants dans la voiture avec moi et je n'ai pas envie de faire la sociale avec mes écouteurs ou de leur mettre toujours en boucle GoPro, etc. parce qu'ils en ont ras le bol. Mais voilà, j'essaye vraiment, dès que j'ai une minute, que ce soit, je vous dis souvent le matin tôt avant que les enfants se réveillent, en courant, parfois entre deux patients si quelqu'un arrive en retard, de pouvoir me former. Parce que je pense quelque part que c'est quand même la clé de ce projet. Alors, le comité de pilotage, on a eu vraiment la chance d'assez rapidement pouvoir intégrer ce comité de pilotage que Nico et Sabrina ont mis sur pied. qui nous donne forcément accès à une formation, comme JP l'a expliqué. On a eu l'occasion à plusieurs reprises d'avoir des speeches de Michel, d'avoir de la formation de peut-être plus haut niveau, j'ai envie de dire. Et puis, tous ces événements, ces congrès, ces voyages. Voilà, c'est très chouette parce que ici, pour la première fois, au mois de juin, on a eu une partie de notre équipe qui nous a accompagnés. On n'était pas tout seul parce que c'est vrai que les deux années précédentes, à part sur le congrès, on était à chaque fois tout seul sur ces voyages. Ici, on a quelque part été accompagné par une partie de notre groupe et c'était vraiment sympa. Mais ça aussi, ça donne accès à plus de vision, plus de voyages. Donc, j'ai envie de dire que quelque part, notre tuteur, en résumé, ça a été quelque part une décision. Ça, c'était le point clé parce que si on n'avait pas décidé à ce moment-là, je pense que peut-être qu'on serait toujours à 15 000 maintenant, j'en sais rien. Je pense que tôt ou tard, il faut se dire qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Et puis ensuite, ça a été des actions, des actions et de la formation. Alors, des actions parce que c'est les actions qui, malgré tout, amènent les PV. C'est ça qui fait avancer le business. Et puis, de la formation parce que c'est peut-être ça qui nous apporte la motivation à continuer à faire ces actions. J'espère que je suis plus ou moins claire. Ça nous donne la vision et aussi parce que c'est cette formation qui quelque part va nous aider à nous développer personnellement et à donner envie, à donner envie à d'autres de nous suivre, quoi, quelque part. Donc, voilà.
Donc, voilà, je pense qu'on a un petit peu balayé notre parcours. Après, je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas dit, il y a plein de choses qui manquent. En une petite heure de temps, ce n'est pas simple de penser à tout, de tout partager. Voilà, ce qui est sûr, c'est que c'est une aventure avec des hauts et des bas, avec des moments qui sont top, avec des moments qui sont vachement moins top aussi. Et que chacun est différent, chacun a une perception des choses différentes, une approche différente, et qu'il faut pouvoir apprendre à fonctionner ensemble avec tout ça. Et que je pense que c'est un véritable challenge, et que, comme l'a dit Caro dans l'introduction, on n'est pas arrivé, mais je pense qu'on n'est jamais arrivé. Je pense qu'on a toujours des axes de progression, on a toujours des axes de développement, et il faut toujours garder ça en tête parce que je crois que c'est quelque chose qui va nous faire grandir toute notre vie.